Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes en direct sur 48 FM, il est 9h, tout de suite votre point sur l'actualité avec Marine Liégeois. Bonjour Marine.
Bonjour Garance.
Le personnel des prisons est en grève depuis hier soir.
Une grève poursuivie aujourd'hui, les syndicats pénitentiaires dénoncent la surpopulation carcérale et le manque de sécurité. Nous ferons le point avec Dorine Donati, présente à la prison de Lantin. Ce 15 mars marque aussi le coup d'envoi de l'Hackathon Citizens of Wallonia, une compétition de 48 heures avec des coachs et des jurys issus de la technologie, de l'innovation et de l'open data. Et enfin, ce week-end débute Nourrir Anse, le festival de la transition alimentaire. Emily Windels, chargée de projet au Centre culturel de Anse, est avec nous en plateau pour en parler. Le personnel des prisons se croise les bras aux quatre coins du pays depuis 22 heures ce jeudi à l'appel du Front commun syndical. Le secteur pénitentiaire dénonce la surpopulation carcérale qui bafoue les droits des détenus et menace la sécurité des travailleurs et travailleuses. Dorine Donati, vous vous trouvez à la prison de Lantin. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de la situation à l'heure actuelle ?
Alors à l'heure actuelle, une trentaine de syndicalistes se trouvent à l'entrée de la prison de Lantin. Alors cette grève de 24 heures, vous l'avez dit, elle a commencé hier soir à 22 heures, mais les syndicats se sont donné rendez-vous au pic grève ce matin à 6 heures. Alors sous les tonnelles vertes et rouges, les représentants CSC et CGSD partagent le café du matin, mais ne vous y trompez pas, même si l'ambiance est calme, que la bonne ambiance règne et que quelques rires sont échangés, le mécontentement reste fort, les revendications et réclamations sont affirmées.
Et concrètement, que réclame alors le personnel pénitentiaire ?
Alors, les revendications, elles concernent trois points litigieux. Le premier, c'est la problématique des détenus non écroués en Flandre. La deuxième, c'est la surcharge de travail pour toutes les catégories du personnel. Et enfin, la surpopulation carcérale. Alors, à propos des attentes concrètes des syndicats, je vous propose d'écouter Éric Manig, le président de la CSC Service Public Lantin.
On est là principalement pour dénoncer la surpopulation au sein de nos prisons, et en particulier ici à la maison d'arrêt de Lantin, où il y a plus de 172% de surpopulation. Ça induit automatiquement une charge de travail supplémentaire pour l'ensemble du personnel des établissements pénitentiaires. Si c'est vraiment une grève générale en Belgique de tous les établissements pénitentiaires en front commun, et donc c'est vraiment tout le monde qui est impacté par cette surpopulation. On attend des mesures structurelles de la part de l'autorité, mais malheureusement, à part le congé pénitentiaire prolongé qu'ils nous ont proposé il y a quelques jours, il n'y a pas grand-chose qui se dégage actuellement.
Merci Dorine pour toutes ces précisions. À noter qu'une autre action à Lantin est annoncée du 17 mars 22h au 18 mars 22h. On vous en parlait hier, des militaires de la caserne d'Amé font l'objet d'une enquête en raison de faits graves. Des comportements humiliants et des traitements dégradants leur sont imputés. Le scandale a été confirmé en conférence de presse par Ludivine de Donder, la ministre de la Défense. Certains militaires sont aussi soupçonnés de trafic de drogue et de trafic d'armes. Ils auraient été impliqués dans un commerce de pièces d'armes détachées. Le parquet fédéral et le parquet de Liège sont saisis de l'enquête. Le Hackathon Citizens of Wallonia démarre ce soir. La Smart City Institute de l'ULiège est partenaire direct de cette compétition. Pendant 48 heures, une centaine de candidats, pour la plupart des jeunes universitaires ou entrepreneurs, vont s'affronter en équipe lors de ce marathon informatique, pas comme les autres, puisqu'il se veut être un réel projet citoyen, Arnaud.
Oui, se saisir de problématiques du quotidien, imaginer des solutions concrètes pour les résoudre au moyen du numérique et de l'open data. Voilà l'idée ambitieuse de cet hackathon. Le rendez-vous existe depuis 2016 et trouve sa raison d'être dans le projet plus large encore de transformer la Wallonie en véritable territoire intelligent.
Alors précisons que l'open data, ce sont les données territoriales publiées par les organismes publics. Mais donc l'idée de cette compétition, c'est de construire un projet citoyen grâce à ces données territoriales et puis en développer un prototype informatique.
Exactement. Et cette compétition a de réels objectifs pédagogiques puisqu'elle demande rapidité, créativité, esprit d'équipe. Mais elle permet aussi de rencontrer des entreprises partenaires de l'événement et au-delà peut-être son futur employeur. Comme nous l'explique Julie Roger, elle est responsable des opérations pour Futurocité.
Au-delà de la possibilité de rencontrer des employeurs parmi les partenaires, hein, nombreux partenaires wallons du domaine de l'IT, il y a aussi la possibilité, grâce au projet, si les équipes souhaitent poursuivre, de démarrer une carrière d'entrepreneur, puisque au-delà du week-end, Futurocité, les partenaires s'engagent à continuer à suivre le projet, si le souhait est d'en créer une véritable activité professionnelle.
Alors notons que parmi les thématiques à l'honneur de cette édition, il y a l'inclusivité, l'occasion pour les organisateurs et organisatrices d'attirer toujours plus de filles vers le domaine des nouvelles technologies.
On peut dire en 9 ans qu'on voit quand même le nombre de participantes croissant. Cette année, je pense qu'on en aura quand même une petite quinzaine sur 100. Alors ça reste encore peu, je vous l'accorde, mais c'est un de nos objectifs et peut-être qu'une des équipes proposera une solution numérique pour accroître la participation des femmes à des projets IT.
Et on reste dans le domaine de la compétition avec le concours Mathèse en 180 secondes qui aura lieu mercredi 20 mars à la Grand Poste de Liège. Mathèse en 180 secondes, c'est un concours international de vulgarisation scientifique ouvert aux doctorants francophones du monde entier. Les doctorants doivent présenter leur sujet de recherche en français et en termes simples à un auditoire profane et diversifié. Dorine Donati et Garance Hugo se sont glissés dans les coulisses des dernières répétitions.
Il était une fois des princesses vivant dans un merveilleux château.
Ce château, ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas là d'un conte pour enfants, mais bien de vulgarisation scientifique. Car oui, c'est bien cela le projet de Mathèse en 180 secondes. Une dizaine de doctorants et de doctorantes en compétition n'ont que 3 minutes pour expliquer des années de recherche.
Moi, je suis Astrid Cantamessa, je suis ingénieure en biomédical dans le département d'aérospatiale et mécanique. J'étudie une interface spécifique de l'os. Donc, il faut savoir que l'os, c'est un peu comme une mosaïque, donc de plein de petites parties différentes. Et moi, je vais étudier la colle qui va lier toutes ces parties ensemble.
Pas de panique si vous n'avez pas tout compris. Aujourd'hui, c'est répétition. La gestion du stress est l'objectif du jour. Entre coaching et encouragement, l'ambiance est concentrée mais bienveillante, comme nous l'explique Florence Mignolet, doctorante en physique.
Alors, on ne ressent pas du tout une ambiance de compétition. L'ambiance est vraiment super sympa entre nous. Il y a vraiment beaucoup d'entraide. On s'aide vraiment chacun les uns les autres. On se donne beaucoup de conseils.
Plus que quelques jours pour se préparer, rendez-vous ce mercredi 20 mars pour découvrir les recherches des nouveaux docteurs de l'Uliège. Il est 9h07, vous écoutez toujours 48FM. Dans le reste de l'actualité au fédéral, la Chambre a donné ce jeudi son feu vert aux nouvelles limitations fédérales en matière de tabac et d'alcool.
La loi contient plusieurs mesures anti-tabac. Interdiction de vente de produits du tabac dans le secteur de l'Horeca, dans les points de vente temporaires et dans les commerces alimentaires de plus de 400 mètres carrés. Si l'acheteur semble avoir moins de 25 ans, les commerçants devront lui demander sa carte d'identité. Au niveau de l'alcool, la vente sera notamment interdite au moins de 18 ans, sauf pour la bière et le vin. Et en Wallonie, la PAC, l'agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité, a lancé il y a quelques mois une application pour promouvoir la consommation de produits locaux, Arnaud.
Tout à fait, l'application Je Cuisine Local, lancée fin octobre de l'année dernière et développée dans le cadre des politiques de la PAC pour une consommation durable, connaît un certain succès. Alors régulièrement mise à jour, elle permet aux consommateurs qui souhaitent de se tourner vers des produits locaux et de saison, de trouver des points de vente et des producteurs dans leur région. Pour Joël van der Steen, responsable stratégique à la PAC, cette application était désirée par les consommateurs.
À la base, nous avions développé un site internet suite aux demandes des consommateurs, en fait, qui étaient évidemment intéressés par acheter local, mais qui ne savaient pas où acheter. Donc on a développé un site internet avec au fur et à mesure de plus en plus de producteurs qui pouvaient s'y référencer. Donc aujourd'hui, on a plus de 1000 points de vente qui sont enregistrés. Ça répond vraiment donc à une demande concrète des consommateurs, mais aussi à un objectif de pouvoir référencer gratuitement l'ensemble des producteurs de la région, étant donné que chacun n'a pas un site internet ou des réseaux sociaux pour être vu.
Alors, si l'appli permet un recensement des points de vente, on y retrouve d'autres conseils pour les consommateurs.
Et donc, évidemment, au-delà des bonnes adresses, on a aussi toute une série de trucs et astuces, de petits articles d'information sur les fruits et légumes de saison, sur la façon de conserver ces aliments, sur des portraits de producteurs. Et on a aussi des recettes pour, évidemment, mettre la main à la pâte.
Et pour les amateurs de jardinage, il existe une application sœur qui, sans surprise, s'appelle « Je jardine local ».
Et nous accueillons Émilie Windels, chargée de projet au Centre culturel de Anse, pour nous parler de Nourrir Anse, festival de la transition alimentaire qui aura lieu demain. Bonjour Émilie.
Bonjour Marine.
Est-ce que vous, au sein du festival, vous faites la part belle au local ?
Oui, bien sûr, c'est ce qu'on veut faire avec ce festival. On veut soutenir et mettre en valeur les ressources disponibles sur notre territoire, parce qu'il y en a plein. Et donc là, on a réussi à rassembler une vingtaine de producteurs et d'artisans locaux qui seront là demain, samedi, de 11h à 17h. Qu'on pourra rencontrer, ce sera l'occasion de déguster et d'acheter du miel local, du chocolat, des bières, des pâtes, tout ce qui se fait sur le territoire ansois. Ce sera l'occasion aussi de découvrir les produits des fermes ansoises comme la ferme à l'arbre et la ferme Verians, auprès desquelles on a fait un comparatif, parce que là le thème c'est la patate, et donc on a fait un comparatif sur les prix de la pomme de terre et de l'oignon entre les fermes et certaines grandes surfaces à Anse, et les résultats sont assez étonnant. On a fait ça avec la Hémo La Boussole et la Maison Médicale La Légia, et donc les résultats démontrent certains préjugés, parce qu'on croit souvent qu'à la ferme c'est plus cher, mais en fait non, comme il y a moins d'intermédiaires, que c'est directement à la source, c'est moins cher souvent que les supermarchés, les moins chers.
Et en 2024, nous savons que les Belges vont aller voter et on retrouve le slogan au sein de votre festival « 2024, une patate, un vote ». Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, c'est ça. On ne fait pas que des dégustations et des ventes de produits locaux. Il y a toute une partie sensibilisation dans ce festival grâce à un tissu associatif très actif qui est impliqué dans notre collectif « Qu'est-ce qu'on attend ?». C'est avec ce collectif-là d'ailleurs qu'on a organisé le festival. Et donc, on a réfléchi à comment donner la parole à ceux qui viennent visiter, ceux qui viennent au festival. Et voilà, sur le thème de la patate, on a fait des fausses patates sur lesquelles on peut écrire ses revendications, ses demandes, ce qu'on attend des autorités locales. Et toutes ces petites patates seront plantées dans un faux champ de patates qu'on a fait à l'entrée du festival. Et on les rassemblera et on les communiquera aux autorités communales après le festival.
Merci beaucoup Émilie Windels pour vos réponses et pour votre temps. Et on le rappelle, le festival se déroulera ce samedi 16 mars de 11h à 17h au Centre culturel d'Anse. Depuis mercredi soir, la célèbre église Saint-Folien se métamorphose et devient un tout nouveau lieu culturel. Cet écrin insolite bien connu des Liégeois a été aménagé pour accueillir des expositions pendant 5 ans. Pour ouvrir la série, l'exposition Claude Monet de Immersive Experience inaugure l'espace.
Le peintre Claude Monet investit les murs de l'église Saint-Folien pour une exposition hors du commun. Après Bruxelles et Anvers, Exhibition Hub, spécialiste dans les expériences immersives, s'installe à Liège. L'entreprise, déjà connue pour ses créations immersives à succès telles que Van Gogh The Immersive Experience, retente le coup avec cette fois Claude Monet, maître de l'impressionnisme. Explication avec Gilles Collinet, responsable marketing d'Exhibition Hub.
Le plus grand artiste, en tout cas le maître de l'impressionnisme, et donc c'était la suite logique à Van Gogh, et donc c'était notre deuxième expo immersive qu'on a fait tourner d'abord à Bruxelles, et puis qui est parti ailleurs dans le monde, à Los Angeles, à Barcelone, à Londres, etc. Et puis l'opportunité arrivait de récupérer, de réhabiliter l'église Saint-Folien et de l'installer là.
Et l'exposition semble déjà avoir trouvé son public.
C'était pour moi la toute première fois que je me rendais dans une exposition immersive. Et j'ai vraiment trouvé ça très chouette. On voit vraiment qu'avec tout ce qu'il y a comme avancée technologique, on peut faire plein de belles choses. Et surtout rendre un peu plus attrayantes les expositions qui parfois étaient un petit peu barbantes. Ici, tout passe très très vite. On n'a vraiment pas l'impression d'être dans un musée. C'est ça qui est vraiment chouette et que j'ai vraiment beaucoup aimé.
L'exposition immersive est encore là pour 6 mois. Vous avez donc tout à fait le temps d'aller vous immerger.
Un reportage de Dorine Donati et Arnaud Van Kormbrugge.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi, même heure, même fréquence. Belle journée à tous sur 48 FM.